Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Rare à l'écoute, la chaîne de podcast dédiée aux maladies rares. Aujourd'hui, nous continuons d'explorer l'acromégalie et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Lançon, qui est présidente de l'association de patients acromégales pas seulement. Madame Lançon, bonjour.
Bonjour.
Madame Lançon, aujourd'hui nous abordons l'acromégalie du point de vue des aidants. Vous êtes maman d'un garçon atteint d'acromégalie. Alors tout d'abord, quand et comment sont survenus les premiers symptômes de la maladie chez votre fils ?
Je dirais aujourd'hui, a posteriori en fait, que les premiers symptômes sont apparus vers l'âge de 10-11 ans. À l'époque, évidemment, je les avais pas du tout perçus. Et c'était principalement, je dirais, un épaississement de la lèvre, c'était des infiltrations au niveau du visage. Mais bon, c'est l'âge où les enfants sont un petit peu ronds, on va dire. Et c'est vrai que, voilà, je n'avais pas perçu ces symptômes-là. Et surtout, je ne connaissais pas les symptômes de l'acromégalie à l'époque.
Et au final, combien de temps est-ce que vous êtes resté sans diagnostic ?
Alors, il est resté, en fait, à partir du moment où vraiment j'ai commencé à avoir des modifications et en tout cas où il a eu des douleurs, et que les douleurs en sont apparues, il avait à peu près 15 ans. Et puis ensuite, il a été diagnostiqué à l'âge de 18 seulement. Voilà, et pendant ces 3 ans, j'ai essayé de me faire entendre et j'ai très peu été entendue. Voilà, et il souffrait d'énormes maux de tête, mais vraiment... Pas que des migraines, et puis du dos aussi, très grosse scoliose, syphose, hyperlordose, voilà. Ça a été, on va dire, les symptômes qui, à 15 ans, étaient déjà très visibles, mais qui n'ont toujours pas été perçus comme ceux de l'acromégalie. Il a fallu attendre plus longtemps qu'il ait 18 ans, donc.
Et le diagnostic s'est fait comment ?
Alors, le diagnostic s'est fait quand, à force de réclamer, en fait, qu'il se passe quelque chose, j'ai fini par, encore une fois, le ramener chez mon généraliste. Et là, tout à coup, le médecin généraliste a trouvé que son dos avait quand même énormément... c'était beaucoup déformé en peu de temps, mais sans voir les autres symptômes. Et donc, en fait, elle m'a envoyé voir un spécialiste, du dos, de la colonne à l'hôpital. Et c'est ce spécialiste qui a tout de suite posé le diagnostic.
Donc, une période très longue, 6 ou 7 ans avant d'être diagnostiqué. Comment est-ce que votre fils et vous-même avez-vous vécu cette période ?
De façon très difficile, mon fils a une simple phrase. Il dit qu'on lui a volé 7 ans de sa vie. Voilà. Lui, c'est son résumé et c'est son ressenti. Et encore aujourd'hui, même si aujourd'hui il a 27 ans. Et pour moi, je dirais... c'était compliqué parce que j'avais un adénome hypophysaire chez mon frère, donc je connaissais bien l'adénome hypophysaire et les migraines, les maux de tête terribles, et j'avais beau en parler au médecin, on me disait que c'était pas possible. Donc en plus, il y avait un refus d'entendre une suggestion que je faisais, et ça c'était aussi difficile d'avoir ce sentiment de pas être entendu, évidemment. Et puis bien sûr, on voit son enfant souffrir et on n'arrive pas à le soulager, et ça c'est compliqué.
Alors, on est là aujourd'hui pour évoquer les aidants, Madame Lançon. À ce moment-là, quel a été votre rôle en tant que parent ?
Au moment du diagnostic, j'ai bien senti que mon fils, c'était très compliqué pour lui. Donc, effectivement, il m'a passé la main, sans me le dire, mais il m'a passé la main. Là, mon rôle a été celui des aidants. Effectivement, c'est de rechercher le parcours du combattant, de trouver le bon spécialiste, le bon neurochirurgien. C'est tous ces rendez-vous qui s'enchaînent, qu'il faut arriver à coordonner. Et bien sûr, plus tout le côté psychologique, où il faut arriver à aider son enfant qui souffre et qu'on n'arrive pas à soulager, où il faut aussi en tant que maman, en plus, avec une mutation sur le gène AIP chez nous, donc avec moi, donneuse donc de cette mutation, cette culpabilité, le fait de se dire, mon Dieu, mais j'aurais dû voir plus tôt, plus vite, on se sent en même temps coupable, et pour moi, la seule solution pour arriver à être, enfin, pour faire quelque chose, c'était de mener le combat et de prendre les armes, que le parcours de soins pour mon fils soit le meilleur possible.
Aujourd'hui, Madame Lançon, vous êtes présidente de l'association Acromégale Pas Seulement. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette démarche ?
Ce qui est à l'origine, c'est tout ça, c'est d'avoir vécu tout ça et de se dire que j'étais seule, entre guillemets, parce que il n'y avait évidemment pas d'association qui existait à l'époque, et je me suis dit que c'était pas possible, qu'on peut pas laisser les gens comme ça. La maladie était compliquée, était douloureuse, enfin c'était très difficile, les aidants c'est très difficile, et je me suis dit... il faut qu'on arrive à donner une écoute. Il faut que les gens, en tapant sur Internet, ne tombent plus sur les photos de Shrek ou sur les frères Bogdanov et qu'enfin, ils tombent sur des bonnes informations. Et ça a été la motivation première, évidemment. Quelques années après, quand mon fils a été un petit peu plus en meilleur état de santé, j'ai pu m'occuper, me tourner vers les autres et essayer d'aider les autres.
L'association Acromégale Pas Seulement est très active pour soutenir les patients atteints d'acromégalie. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été mises en place pour accompagner les proches de patients malades?
Oui, de toute façon, dès le début, c'était une évidence que les aidants, les proches, les parents, les conjoints, enfin tous ceux qui étaient autour des patients et qui souhaitaient être présents, évidemment, sont accueillis au sein de l'association. Et donc, dès le départ, nous avons travaillé aussi pour les aidants. Et entre autres, nous avons, avec le partenariat d'un laboratoire, nous avons mis en place une box qui s'appelle la Acroméga Box, qui permet, qui présente aussi tout un livret spécialement réservé aux aidants, surtout l'aspect social, toutes les démarches qu'ils peuvent faire pour obtenir du temps pour leur retraite, enfin pour tout, pour le temps pour eux aussi, hein, à prendre, être capable de prendre du répit. Voilà, on a tout ce livret social, et nous avons également des ateliers d'éducation thérapeutique avec lesquels, enfin, nous avons travaillé sur ces ateliers, et bien évidemment ces ateliers sont ouverts. Et puis, bien sûr, nous les accueillons, ils participent, on va dire, à toutes les actions de l'association au même titre que les patients eux-mêmes, que les acromégales. Et donc, ce programme d'éducation thérapeutique qui s'appelle Atout Hypophyse est présent dans tous les centres de compétences et centres de référence, donc dans les services d'endocrinologie des CHU.
Alors, on arrive à la fin de notre entretien, Madame Lançon. Si vous aviez un message à transmettre aux proches, aux parents ou aux conjoints de patients atteints d'acromégalie, quel serait-il ?
Je dirais d'ores et déjà que si on ne se sent pas non plus forcément la force d'être un aidant, faut pas culpabiliser. Chaque petit geste est important. Je dirais qu'il faut se battre, prendre les armes. C'est un parcours sans doute un peu difficile, mais tellement enrichissant. Et surtout, prendre conscience que tous ces mots et par exemple, principalement la fatigue, qui est quelque chose de très, très, très compliqué à vivre pour les acromégales et qui, pour nous, personnes bien portantes, c'est une notion qui est difficile, mais en fait, la fatigue d'un acromégale n'est absolument pas la fatigue qu'on peut connaître, même dans les plus grands jours de fatigue que nous avons. Donc, soyez présents, même avec des petites choses, c'est important. Et si vous ne pouvez pas, ne culpabilisez pas non plus.
Eh bien, merci infiniment, Madame Lançon, pour votre témoignage qui nous a permis de mieux connaître l'acromégalie et sa prise en charge par les aidants. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre compte Instagram, Rare à l'écoute, ou notre site internet, www.rarealécoute.com, où de nombreuses informations sont à votre disposition. Nous vous remercions pour votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous très prochainement sur la chaîne Rare à l'écoute pour aborder une nouvelle maladie rare. À très vite.